plus au 25-226.
Quelqu'un nous écrit « Bon, qu'est-ce que j'ai manqué? J'arrive de remplir un truck de porc pour du bon bacon. » Pas grand-chose, honnêtement.
Dupont le matin. Toujours plus de contenu.
FM 93.
As-tu deux minutes? Présenté par Kia Québec, Sainte-Foy et Val-Bélair. On a deux grandes nouvelles sur nos VUS. Un, le Kia Telluride a été nommé meilleur VUS en Amérique du Nord et meilleur VUS grand format au Canada. Deux, on fait vos quatre premiers paiements hebdo sur le Sorento et le Sportage.
Dupont le matin. As-tu deux minutes?
Histoire horrible dans les Laurentides. Une adolescente de 13 ans a été assassinée et retrouvée abandonnée sur la route hier. C'est un automobiliste qui aurait aperçu le corps d'une jeune fille couchée sur le bord de la route. Il a contacté le 911. Durant son transport en ambulance, la jeune victime serait tombée en arrêt cardio-respiratoire et son décès a été constaté sur place. L'adolescente a été retrouvée à moitié nue. Elle aurait été tuée d'une balle à la tête. Les policiers ne savaient pas hier combien de temps elle avait passé sur le bord de la route.
Belleveux. J'ai juste dit que les écoles sont toutes fermées.
Oui.
Les écoles secondaire, primaire, tout est fermé, là, vous le savez. Là. C'est, non, mais c'est moi qui ne veux plus le dire, c'est moi qui le dis. Mais c'est fermé.
Commission scolaire.
C'est fermé. On passe sur un autre nom demain.
FM93.com. Il y a un bel onglet où tout est décrit. Bell veut vendre aux entreprises un système de reconnaissance faciale capable de vérifier l'identité des gens, de détecter leur comportement et de les suivre au quotidien. Selon la presse, le géant des télécommunications aurait suggéré à ses clients d'affaires un tel système pour surveiller et cibler les personnes qui entrent et sortent de lieux publics. Et finalement, alors que le virus COVID-19 continue de se propager de jour en jour. La santé publique du Québec a procédé à un rappel important pour les hommes portant la barbe et risquant d'être en contact avec des victimes du virus. Les masques de protection utilisés dans les hôpitaux sont souvent inefficaces lorsque l'on les utilise en présence d'une barbe importante.
Le Canadien reçoit les Rangers de New York ce soir au Centre Bell. Hier, Ligue nationale de hockey, 3 matchs. Colorado l'emporte contre Buffalo. Les Kings l'emportent contre Pittsburgh. Et jeu blanc de Vegas, 3-0 contre Edmonton. Un jeu blanc à l'affiche de Marc-André Fleury. Défaite des Remparts au Centre Vidéotron, 3-2 contre Drummondville. Et bravo à l'équipe de basketball du Rouge et Or féminin qui l'emporte hier 61-48 contre McGill pour accéder à la finale provinciale.
Bon, à la météo, c'est les journées de tempête. Là, vous dites, mais ça commence. Là. La neige semble avoir débuté tout autour de Québec.
Ah oui?
Je vous l'avais dit depuis quand même quelques jours qu'il y a un genre de trou qui se formait dans le système sur Québec, ce qui fait qu'on va peut-être être une région moins affectée, mais quand même. 15, tu sais, vous avez une garantie de 15 cm de neige. Là. Bon, est-ce que ça va excéder ça de beaucoup? Certains disent oui, d'autres non. Seule Dame Nature le sait. Les vents violents semble avoir... Non, ça n'a pas diminué beaucoup. Il semble venter encore pas mal. Alors, ça risque de causer des problèmes quand la neige sera beaucoup plus intense. Et c'est drôle, avec le retard que cette neige-là a pris ou ce système-là a pris, ben, c'est possible que demain, il y ait encore quelques séquelles à certains endroits.
As-tu deux minutes? Présenté par Kia Québec, Sainte-Foy et Val-Bélair. On a deux grandes nouvelles sur nos VUS. Un, le Kia Telluride a été nommé meilleur VUS en Amérique du Nord et meilleur VUS grand format au Canada. Deux, on fait vos quatre premiers paiements hebdo sur le Sorento et le Sportage.
Ben, c'est ça.
Hey, c'était quoi la deuxième nouvelle? T'as dit, il y a la fille qu'on a retrouvée morte sur le bord de la rue.
Oui, vraiment horrible.
Je sais pas si vous avez vu également en fin de semaine ça. Il y a une piétonne, je pense, qui s'est fait frapper par plusieurs véhicules.
C'était pas hier? Ben, ça a repassé la nouvelle.
C'était hier que c'est arrivé. J'avais de la misère à comprendre comment, après un, on puisse pas s'immobiliser ou s'arrêter. Puis ça avait pas de l'air sur être sur l'autoroute, là.
Ça me fait penser à la jeune fille qui est décédée sur le boulevard Saint-Anne.
Ah, ouais, OK.
Tu sais, qui a deux voitures soirée, qui avaient passé sur son corps. C'était horrible.
Puis la deuxième nouvelle, t'as fait?
Oui, c'est reconnaissance faciale.
C'est ça. Ben, c'est Caillou, mon chum Caillou, il a un iPhone, il a un nouveau iPhone, c'est la reconnaissance faciale. Puis quand il se lève magané, son téléphone ne rouvre pas. Vous riez, c'est vrai. Tu sais, comme vous autres, les filles, vous souvenez des cernes en dessous des yeux.
Vous autres, les filles.
Les gars, on est moins cernés, là.
C'est sûr qu'à 3h20, quand ça sonne, il y a des cernes.
Tu serais pas capable d'ouvrir ton sel. Non, mais ça va avoir du bien, tu sais. Fait que tu vas passer l'avant-midi à être obligé de t'entretenir, sinon ton sel rouvra pas.
Ben oui, c'est super, ça. Puis mettons avec mon doigt ou encore le bon vieux code.
Tu sais, il y a des lunettes. Des lunettes fumées. Mon fils aussi, là, lui, avec reconnaissance faciale. Si t'as des lunettes fumées, il rouvre pas, là. Tu comprends? Faut qu'il te voit le...
Puis vous autres, les hommes, avec vos boutons, ça ouvre-tu?
Ça, on n'a pas ça, nous autres. On est parfait. C'est la variété de la barbe, j'ai hâte de voir, là. Un jour, je vais arriver là, puis moi, je garde pas ma barbe égale. Fait que surtout avec le coronavirus, là, j'ai plein de virus dans la barbe, là. Fait que, OK.
Hé, hey, le petit chou, tu te laisses un peu, là.
Oui, on vient parce que notre invité est arrivé. Pourquoi si tôt aujourd'hui, malgré que pas une grande différence? Non. Isabelle Mathieu, chroniqueur judiciaire au Soleil, c'est qu'elle a une tabarouette de journée, Caroline, puis j'ai bien hâte d'avoir... Moi, j'ai tellement d'attentes aussi après la journée d'aujourd'hui. Donc, ça commence tôt ce matin.
Oui. Est-ce Salut que... tout le monde.
Bonjour Isabelle, je m'excuse. Mon manque de politesse, des fois. Est-ce que quand il y a une grosse journée comme ça, puis il y a beaucoup de... Tu sais, les dans le corridor, comme dans la chambre des joueurs, des arbitres, des juges en arrière, ils se disent « OK, moi, on m'a commencé avec ça à 9h30, toi, vas-y à 10h. » Pour pas que les causes... Pour vous laisser la chance d'aller dans chacune des causes, est-ce qu'on essaie de créer un horaire pour vous faciliter le travail?
Je te dirais que c'est très très rare qu'ils se préoccupent de ça, de nous, là. Mais nous autres, on est du genre à lever le flag, dire « Excusez, cours supérieure, c'est parce que là, ça déborde et c'est exactement ça qui arrive aujourd'hui. » Alors, ils ont un peu arrangé et ils comprennent tout à fait. Puis c'est aussi une raison de disponibilité de salle. Ben oui. Comme là, par exemple, t'as la peine du pasteur Paul Mukendi, qui est un homme là, suivi par des centaines de fidèles, qui a été déclaré coupable par un jury d'agression sexuelle sur une de ses anciennes fidèles. Donc, bang, 9h, peine de Mukendi.
Ah, dis pas 9h30, c'est 9h.
Eux autres, c'est 9h, la Cour supérieure. Après ça, t'as le dossier Eustachio Galaise, qui a annoncé hier que ça s'en venait pour un plaidoyer de culpabilité. On le dit encore au conditionnel parce que tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Il y a toujours une possibilité de changer d'idée, mais c'est ça qui est annoncé. Mais là, tu le fais-tu en même temps? Tu divises tes choses? Non, on va le faire, heureusement, autour de 10 heures.
Dans la même salle?
Oui, ça devrait être la même grande, la plus grande salle dont je vous parle souvent, okay. Là, la 401 là, du Palais de justice. En même temps, t'as le dossier de Jonathan Falardeau-Laroche, le jeune homme épileptique qui a fauché Marie-Pierre Gagné devant le CHUL. Hein. C'était une histoire qui reste bouleversante, même plusieurs années après. Là, c'est les représentations sur la peine parce qu'il a été déclaré coupable. Donc ça, c'est 9h30, Cour du Québec.
Ouais,
là,
mais lui, qu'est-ce que tu veux rapporter de ça, les représentations sur la peine? T'sais, lui, on a besoin de savoir quel sera le verdict. On le sait, ouais. Il a été déclaré coupable. Coupable de...
Négligence criminelle causant la mort.
Causant la mort. Et là, on va amener quelques arguments.
Je te dirais que le plus intéressant aujourd'hui, c'est... T'as rappelé-tu ce procès-là? On s'en était parlé et moi, je m'attendais à de quoi de très émotif et ça l'a pas été du tout parce qu'il n'y a pas eu de témoignages.
Okay.
La Couronne a versé des témoignages écrits de tout le monde qui ont assisté à l'horrible collision et tout ça. Et là, aujourd'hui, c'est l'occasion pour les proches de Marie-Pierre Gagné de venir parler. Okay. Ce qu'ils ont pas fait tout là durant le procès, de venir lire souvent, c'est ça, c'est une lettre. Donc il y a tout ce bout là et
ça fait
ensuite
quelques années par contre, peut-être que ça va être moins émotif, mais j'ai encore
j'ai
là.
Hâte,
je dis ça.
Ouais.
Parce que moi quand j'ai donné un trophée au Gala des légendes dans la mémoire de Madame Gagné, son frère était descendu de l'Abitibi. Sa sœur était là aussi, sa mère était-tu là? Ouais, sa mère était là. C'est juste son chum.
Ça faisait pas un an là, quand tu les as honorés, eux autres?
À peu près un an. C'est arrivé à quelle date, tu te souviens-tu, à peu près?
Oui, 2016.
Oui, mais à quelle période de l'année? C'était l'été?
C'était l'été.
Fait que...
Ça fait trois ans et demi, grosso modo.
Ça faisait peut-être un an. Je me souviens pas. À peu près un an après.
C'était en août.
Il y a juste le conjoint, évidemment, puis parce que je me souviens, j'avais passé beaucoup de temps à jaser avec eux. Puis la sœur de Marie-Pierre avait livré un témoignage. Tu sais, avait eu une vie difficile, elle. Elle a livré un témoignage le soir du Gala des légendes, là, à faire broyer 800 personnes là, qui étaient là. Ça va être émotif, ça, c'est certain.
Oui, puis c'est utile, là, ça fait partie du processus que ces gens-là, okay. les proches d'une ouais. victime, puissent s'exprimer, que le juge qui a entendu le procès les entende. Et ensuite, ben là, il va y avoir les plaidoiries. Okay. Je vous annonce tout de suite qu'il n'y a pas de suggestion commune sur la peine. Là. C'est clair que le procureur de la Couronne, Thomas Jacques, puis l'avocat de la Défense, Simon Roy, vont plaider ce qu'eux estiment être une peine.
Et ça va être des extrêmes quasiment dans cette affaire-là. Là.
Des fois, c'est pas tant extrême, mais c'est sûr qu'ils s'entendent pas. Là. On va faire quelques heures là-dessus.
OK. Tu m'obliges, Isabelle, à ouvrir une parenthèse de ce qu'on a fait plus tôt.
Je fais jamais ça.
Donc là, tu me dis, aujourd'hui, ça avait été fixé d'avance, c'est les pour la sentence, représentation sur la peine. Mais Galais, s'il plaide coupable aujourd'hui, les représentations sur la peine, est-ce qu'ils ont lieu aujourd'hui ou on va fixer
une date? Normalement, tout se fait aujourd'hui.
OK, ça veut dire que la c'est bien poche parce que mettons que la famille
ils sont prévenus. Oui, eux autres ils sont là, ils vont être là aussi, ils peuvent s'adresser. C'est sûr que leur délai est plus court là, ils ont pas autant
c'est
de temps pour
puis ils peuvent être là puis finalement qu'ils changent d'idée tellement ils sont troublés là.
Ah oui, c'est j'en ai vu souvent puis c'est ça c'est très dur pour les familles de victimes là quand ça arrive évidemment.
OK, puis quand tu dis tout va se faire aujourd'hui dans le cas de Galaisé, le meurtrier de l'hôtel Sepia. Donc là, plaide coupable, représentation sur sentence.
Ben, c'est dans le sens, on l'envoie en prison à perpétuité avec pas de possibilité de libération conditionnelle pendant 25 ans.
Okay.
C'est pas mal ça. Là. C'est, il n'y a pas grand marge de manœuvre.
C'est ça. Exactement. Ça donne quoi de... À part d'y passer un message, mettons, la famille qui voudrait s'adresser directement à lui, ce qui n'est pas le but de l'exercice, mais qu'est-ce que ça lui donne d'aller parler? Rien, ça ne change rien.
Sachant, qu'est-ce que ça leur donne? Ça dépend de chaque personne. Là. Okay. Honnêtement, il y en a que ça leur fait du bien de s'adresser au tribunal. Il y a beaucoup, je pense, de colère puis de rage dans ce dossier-là. Fait que des fois, ça peut faire du bien.
Ouais.
Et là, évidemment, ça va être l'occasion d'avoir un résumé des faits. Attendez-vous pas, c'est pas un mini-procès là, qu'on va avoir aujourd'hui. La couronne et la défense se sont entendus sur ce qu'ils allaient dire aujourd'hui, sur qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui est arrivé. Donc, on va avoir un résumé, on va en savoir un peu plus. C'est quoi les éléments qui font que c'est finalement un meurtre prémédité.
J'ai hâte de savoir, je le comprends pas ça. J'ai hâte de savoir, je suis de différentes choses puis
le fait que c'est devenu un premier degré.
Ouais. Je comprends pas parce que ça prend tellement. Puis d'ailleurs, ça va être un débat qu'on aura plus tard là dans une émission à venir. Mais comparer le premier degré avec le deuxième degré au niveau des sentences, là, surtout pas au niveau des sentences, mais surtout au niveau des libérations conditionnelles. Là, pourquoi qu'il y a 10 ans d'écart alors qu'il y a pas tant d'écart que ça? Prenez les deux meurtres que Galais a faites là. Le premier, où il est déjà contrôlant et agressif avec son épouse, puis que là, le matin, où là, il veut pas qu'elle laisse tout ça, puis il va dans la cuisine, puis d'après moi, il branle dans le manche, puis il finit par la tuer, puis pas à moitié, par combien de coups de couteau déjà? C'était-tu 27?
Je me souviens.
En tout cas, un tas, là. Et était déjà morte, puis il continuait, vous comprenez? Et bon, puis on appelle ça quand même un deuxième degré, puis 10 ans après, il est dehors. Fait que 15 ans après, il y a 10 ans d'écart, c'est ça. Et l'autre qui serait prémédité, il a juste peut-être emmené le couteau dans ses poches avant d'y aller. J'ai de la misère à voir une si grande différence.
Ou peut-être parce qu'il a déjà tué. On se dit.
On se dit qu'il l'avait prématuré.
Ça peut-tu influencer ça dans le fait que tu sais, il a déjà tué. Il a déjà un plan qui a été élaboré par ce gars-là pour tuer quelqu'un, ça peut-tu faire partie de ça?
Ben, moi, je pense qu'il faut vraiment que la couronne ait des éléments pour porter.
Ça prend des éléments sur le cas.
Comme
là.
Ça. Exactement. Il faut que tu aies un élément de préméditation, propos délibéré. Il faut qu'il l'ait fait là avec la conscience de ce qu'il faisait. Donc, c'est ça que ça prend. Là. Sinon, il l'aurait laissé au deuxième degré. Puis surtout dans son cas à lui, comme
rien.
C'était un deuxième, il s'en allait anyway pour 25 ans. Puis honnêtement, là, on a beau avoir perdu confiance. Je peux comprendre les auditeurs qui ont perdu confiance dans le système des libérations conditionnelles, mais on s'attend-tu qu'il ressortira jamais? Jamais.
C'est ça.
Fini.
Prédiction de ma part? Je pense que le premier degré... Là, il me semble que si c'est ça, c'est cave. Ça, j'ai l'impression que lundi, là, il a monté une bulle au cerveau puis il a tout déballé. Qu'il avait emmené un couteau de chez eux, que là, il n'y avait pas l'argent pour la payer. Mais j'invente une histoire. Là.
Mais ça arrive, t'sais, ça, parce Isabelle, que des meurtriers ou des bandits... viennent qu'à dévoiler tout ce qui s'est passé.
Ça, c'est clair, c'est vraiment pas tout qui veulent un procès.
Faut que tu vives avec ça sur ta conscience, pareil. Là. Il reste que c'est ça.
Déjà, il est allé se livrer quand même, lui.
Oui, il est allé se livrer, puis en disant qu'il savait très bien qu'il ressortirait jamais. Fait que là, peut-être qu'il s'est tanné lundi, puis qu'il a dit je lui ai promis 2002. Parce que là, on comprend que la première shot qu'il a rencontré, il avait payé 1300. Là, il avait promis 2000. Ouais. C'est pour ça qu'elle a finalement dit oui. Il semble-t-il qu'il avait pas cet argent-là. Fait que. Là, c'est peut-être que tu sais, j'essaie d'inventer des choses, j'invente tout ça là. Mais tout simplement pour dire qu'il a peut-être dit à la police, ben je me suis aperçu en m'en allant à ce rendez-vous-là ou avant le rendez-vous que j'allais être obligé de terminer ça là parce que j'avais pas l'argent ou parce que ça marchait plus, j'étais barré du salon de massage. Donc moi je pense que c'est les aveux qui vont peut-être avoir mené au premier degré, parce que sinon, je vois difficilement que ça peut être d'autres.
Bon, mais stay tuned. Mon excellent collègue Marc Allard va vous tout vous raconter ça, parce que moi, je vais aller faire trois autres histoires, puis lui va se concentrer là-dessus.
Mais justement, d'ailleurs, tu es là pour me parler ce matin de Paul Aulny. Je ne sais pas, c'est qui, lui? C'est quoi, ça?
Oui, ben je pense que vous en avez parlé un petit peu en nouvelle. Olivier Paul Aulny, j'avais le goût de vous en reparler. C'est le gars qui est parti 18 mois en prison pour le viol d'une escorte. Là, c'est sûr qu'on est plus sensible à tous ces dossiers là, ouais, de violence contre les travailleuses du sexe là, ouais, à cause de Marilyn Lévesque. Mais sérieusement, là, celle-là était quand même troublante parce que lui, c'est un monsieur, c'est un gars de 57 ans, un ressortissant français. Il a immigré ici en 2011. Il a suivi sa conjointe qui, elle, avait eu une belle job à Québec et il l'a suivi.
Il vivait à Québec?
Oui, c'est ça. Il s'est trouvé lui aussi un emploi dans le domaine de l'informatique et tout ça. Il était supposé partir en 2016. Il devait prendre une année sabbatique, les deux, faire des voyages. Finalement, lui, il a démissionné de sa job. Ça marchait plus trop. Mais elle pouvait pas partir. Fait que là, lui, c'est comme retrouver un petit peu tout seul. Là, ce qu'on nous dit dans les rapports des gens qui l'ont étudié, c'est que c'est là que ça s'est mis à dégénérer. Il s'est mis à consulter de la porno sur Internet et aussi à fréquenter le milieu des escortes. Et là,
Mais il est encore avec sa femme.
Oui, oui, tout à fait. Okay. Et là, il rencontre une jeune femme de 20 ans qui était une travailleuse, une escorte occasionnelle. Là, et elle l'a vu 6-7 fois. Et là, à un moment donné, elle décide, là, pour l'histoire ne le dit pas pourquoi, elle prend un break. Là. Elle veut plus voir de clients. Elle avise tous ses clients qu'elle arrête pour quelques temps. Là, lui, il prend pas pantoute. Il la texte, il débarque chez eux sans prévenir. Il dit, je connais le monde de ta famille.
Il a accès direct à la prostituée.
Ben, avec le téléphone, ouais, là, j'imagine. Puis ça faisait déjà 6-7 fois qu'elle voyait, fait que c'était un genre de client régulier. Et là, elle dit, non, regarde, arrête, là, comprends-moi. Il est débarqué chez eux, il s'est engueulé avec le chum de la jeune femme.
Elle reste avec un gars?
Oui, c'est ça. Qui
à quel âge, elle, à peu près?
20 ans.
20 ans, puis lui, il a 57 au moment
c'est
des faits.
C'est ça, exactement. Okay. Et non, excuse-moi, je pense qu'il a 57 maintenant. On est à 53 dans ce coin-là. Et le chum, le brasse, pas le brasse, mais lui dit, garde, elle veut plus rien savoir, va-t'en. Ben, quelques jours plus tard, Paul Aulny se prend un nouveau cellulaire et il va texter encore une fois la jeune femme avec une autre identité en se présentant comme un autre client. Je ne sais pas pourquoi elle accepte de recevoir ce nouveau client-là qui, en fait, est Olivier Paul Aulny.
Il débarque. La réalité, c'est probablement que c'est lui qu'elle voulait plus voir pour des raisons
peut-être,
X.
Tout à fait. Et là, il débarque chez elle et elle veut le mettre dehors. Elle n'est pas capable. Il la traîne de force sur le lit. Et là, il va la forcer à faire plusieurs gestes sexuels. On parle pas de rapport sexuel complet, mais vraiment plusieurs. Elle dit à plusieurs reprises qu'elle veut pas, va-t'en, c'est une agression sexuelle. Lui, il fait ce qu'il a à faire. Après ça, il met 120$ sur la table puis il dit, c'est pas une agression sexuelle, je t'ai payé, bye. Alors, moi, c'est ce bout-là qui m'a un peu saisi. Et aussi, la jeune femme porte plainte, ce qui est parfait. Et finalement, il a décidé de plaider coupable à l'agression sexuelle et au harcèlement. Parce qu'après ça, elle était complètement traumatisée. Elle a changé d'école parce que lui avait des informations sur elle. Il savait où elle étudiait. Donc, elle était très craintive, très nerveuse de ça, en plus des séquelles de l'agression.
Est-ce que la première fois qu'il se présente chez eux puis que ça brasse avec son chum, oui, elle avise la police? Elle
non,
avise,
pas à ce moment-là.
Ça reste entre eux autres. C'est une mini-crise,
oui,
puis ça reste entre
c'est
eux
ça,
autres.
Ça, on pense que c'est géré puis qu'il a compris.
Okay.
Mais visiblement pas. Et ce qui est un peu aussi capoté, c'est que on essaie toujours, les spécialistes qui rencontrent les accusés là avant de faire la peine, essaient de comprendre pourquoi ils ont commis ça, évidemment. Mais là, ce qui ressort de lui, là, c'est je vais prendre les termes de la gendre de probation qu'il a rencontré, c'est il s'était senti diminué dans sa masculinité. Okay. En raison du succès de sa conjointe, même s'il était fier d'elle.
T'es française, hein?
Et c'est pour ça qu'il se cheminait vers... Il avait besoin comme de prendre le contrôle sur quelqu'un. Fait que c'est comme, bon, ça le rend vraiment encore plus
ben
sympathique.
Oui.
Fait que bref, c'est le portrait. Mais malgré tout, bon, la couronne, normalement, ce serait aligné vers une peine de pénitencier. La défense demandait 9 mois. Comme il va être expulsé dès la fin de sa peine, la couronne a accepté de réviser un petit peu sa demande pour du 2 ans moins 1 jour. Et finalement, le juge Christian Boulay a pensé à tout ça. Il a tenu compte un peu des efforts. Le gars est allé en thérapie et tout ça. 18 mois. Donc, il est arrivé à cette peine-là pour un gars là, sans antécédent judiciaire pour...
Mais il fera pas 18 mois, là. Il va faire un bout du 18 mois, puis...
Tout dépendant de son comportement en prison et tout ça. Mais ce qui est certain, c'est que là, en raison de son statut, il est expulsé.
Oui, mais à la fin des 18 mois aussi, mettons, là, il se comporte bien, puis on le libère sous condition. Est-ce que cette période de libération sous condition, on peut le shipper là-bas tout de suite ou d'après moi, on doit contrôler jusqu'à la fin des 18 mois?
J'ai l'impression qu'on n'a peut-être pas le choix, c'est ça, de le garder. Là. La peine est 18 mois.
On va booker l'avion pour dans 18 mois, genre.
Exactement.
OK. Puis elle, est-ce qu'elle reste-tu dans le décor?
Elle n'était pas présente en salle d'audience, fait qu'on n'a pas eu plus... Ah, tu veux dire la conjointe?
La conjointe ou pas la victime?
Il y avait personne dans la salle pour lui. Là. Okay. Je pense que son couple a éclaté.
On dit son chien est mort, lui.
Ouais.
OK. Autre histoire. Donc, j'ai bien hâte de suivre ça.
Peut-être juste pour préciser, parce que tu m'as glissé un mot cette semaine sur l'autre histoire, le Sri Lankais à Montréal qui a assassiné ou qui aurait assassiné sa conjointe. Ben, lui, je l'ai retrouvé, là, c'est un arrêt des procédures à cause de Jordan et à la suite de tout ça, on l'a expulsé du pays.
Tout de suite après?
Oui, c'est ça, exactement. Fait que c'est pour ça qu'il n'a pas fait de temps.
Parce qu'il n'y a pas de statut ici. Là,
c'est ça, exact.
Okay. Mais moins le délai est grand entre, mettons, la fin de la peine là, ou le contrôle de l'État pour qu'on puisse le retourner chez lui, c'est la meilleure chose. La justice au temps des pierres à feu, que c'est-tu, ce qui est quoi ça?
ce qui me fait rire, ce qui me fait pleurer à tous les jours. Oui, puis je vais le dire tout de suite, c'est notre journal concurrent, le Journal de Québec, qui avait fait ce titre merveilleux à l'automne pour une chronique là, sur le retard technologique, la justice au temps des pierres à feu, parce que c'est épouvantable. Juste hier, là, je me revois encore debout au greffe. J'attends le papier de la mise au rôle d'Eustachio Galaise. Puis là, j'attends un papier, là. Puis la gentille greffière a fait tout ce qu'elle peut. Elle se promène de bureau en bureau pour essayer de trouver mon papier. Là, je suis comme, on est en 2020, je cherche un papier, là. C'est ça, là, la justice. Puis c'est aussi des procureurs de la couronne qui se promènent avec des gros chariots métalliques grinçants.
C'est incroyable, c'est incroyable.
Avec des centaines de dossiers en carton avec du papier dedans. C'est quand il y a une imprimante qui lâche, c'est la catastrophe. Moi, j'ai assisté à des remises de procès. Un avocat de défense se présente devant le juge. Je dis, je m'excuse, monsieur le juge, je peux pas procéder. J'ai pas pu imprimer les papiers qu'il faut que je vous amène. Et ça a été accordé.
Okay.
C'est comme, c'est capoté.
C'est capoté raide. Bon, moi, je suis l'avocat ou le procureur de la couronne ici.
Oui.
Et là, j'ai en preuve un contrat qui a été rédigé entre mon client.
Mon document.
Attends, j'ai un contrat ici qui justifie mon client, par exemple. Là, on va le déposer en pièce
P1. Exactement.
Je pourrais envoyer et dire, hey, je vais te le transférer. C'est quoi ton
arrêt? Tu connais ça, P1? Oui, parfait, vas-y.
Oui, mais est-ce que je pourrais transférer le P1 par e-mail?
Es-tu fou, toi? Pas pour l'instant, non. Là, c'est pas comme ça pour l'instant.
Non, je sais, mais quel serait le problème si les avocats, par exemple, avait tout dans un ordinateur et que chaque document... Mais ça pourrait même... Les photos, tout est numérisé.
Oui.
Donc, voici la photo. Pouvez-vous me la montrer? Oui. Tout est envoyé sur son écran direct. Avez-vous AirDrop, monsieur le juge? Oui, OK. AirDrop, bang, est sur son ordi.
Ben, je fais des blagues. Là. La bonne nouvelle, c'est qu'on chemine vers ça. Parce que là, pour l'instant, là, le merveilleux monde que tu décris qui existe partout ailleurs, sauf en justice... Là,
et en santé.
Ouais, ben déjà, santé a avancé quand même
plus
vite.
Oui, mais il faut quand même prendre des rendez-vous par fax.
De millions et de dizaines de millions. Oui, effectivement.
C'est pour la sécurité.
C'est que, comment je t'expliquerais bien ça? Il y a 70 systèmes informatiques en justice au Québec qui ne se parlent pas entre eux. Le plus vieux, juste un exemple, celui du Plumitif, là, pour avoir les banques de données, là, des antécédents judiciaires et tout ça, il s'appelle Viking, il date de 1971. Et c'est ça dont je me sers à tous les jours. Exactement.
Ah, les écrans, là, c'est écran vert.
Noir, écran vert, et trompe-toi pas dans tes GP, puis tes GC, puis F8, F7.
Et tu gères pas des mots, lui, quand tu commences à écrire quelque chose, hein?
Ah non, non, puis si tu te fais une erreur, t'es jamais, puis tu recommences au début, puis ah non, non, c'est... Fait que bref, on part de loin, mais de très, 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 très loin. Mais la bonne nouvelle, c'est que on s'en va vers on a une espèce de plan, là, qui, je pense, est très, a extrêmement de bon sens et pas remis en question du tout. À coût de, je pense, 200 millions, là, pour amener la justice au plan technologique, là. Il y a d'autres mesures, mais juste sur l'aspect technologique, ça va être 200 millions en 5-6 ans. Et on va en venir à ça. La justice sans papier. Il va y avoir un dossier judiciaire numérique où tout le monde, c'est-à-dire les avocats, le juge, la greffière, tout le monde va avoir accès, tout le monde va verser. L'accusé va avoir accès, lui aussi, à ça. Donc,
dépôt de la preuve, voyez, c'est envoyé, c'est parti. Pascal, ta question de départ était, est-ce que c'est pour la sécurité qu'on fait pas ça? J'ai envie de te répondre, ça n'a pas rapport, parce que je suis convaincu que tous les documents déposés en preuve, ou tous les documents, mettons, secrets, les cellules, ouais, ont été écrits dans avec un ordinateur et peut-être envoyés à une secrétaire ou ils ont déjà été transférés transférés à l'imprimante. Ça s'est fait par Internet ou par Bluetooth ou par, tu comprends? Il y a déjà eu un mouvement vers l'imprimante, vers, donc, c'est pas vrai. S'il y a une sécurité à se méfier, c'est pas Desjardins qui gère le palais de justice.
Non, mais le gouvernement, c'est quasiment inquiétant aussi.
Oui. Parce que présentement, ce qu'on fait, c'est que, la question de Pascal est super intéressante. Parce que présentement, quand il y a des choses confidentielles, on les met sous scellé. Et là, vous imaginez une grosse enveloppe, on la ferme vraiment, là. Puis en salle d'audience, je pense que je vous en ai déjà parlé, il faut que le juge ouvre l'enveloppe avec son petit coupe-papier en plastique, ça va mal, ça prend du temps. Bon, c'est comme ça. Là, quand on va être en numérique, il va falloir de l'encodage, il va falloir de quelque chose, un code qui permet de dire, bon, ça, c'est confidentiel, on le rend pas public, parce qu'en général, tout est public, mais il en reste une petite partie, là, qu'il faut qu'il soit confidentiel. Mais là, c'est là les questions intéressantes qui se posent. Qu'est-ce qu'on va rendre public? Les empreintes.
Tu sais, le juge va ouvrir le dossier avec son pouce, comme j'ouvre mon téléphone ou avec sa face. On est rendu là.
Ça, pour les juges, ça, oui, effectivement, eux autres, ils vont avoir des accès. Là, eux, ils ouvrent là, les choses sous-scellées quand c'est la bonne procédure. Mais mettons, toi, moi, quand on va vouloir avoir accès à des choses, quand ça va être en numérique...
Mais tu vas avoir un département, tu vas aller sur le site Internet, tu vas tomber dans le département, tu vas avoir un code pour accéder à la portion, des médias, puis là, les documents vont être là, tu vas imprimer, tu vas te transférer ce que tu veux.
Oui.
Au lieu de t'avoir remis une copie, va sur le site, et là, on le met en ligne. Là.
Mais je te dirais que pour eux, ils vont plus loin que ça dans leur questionnement. C'est qu'ils se demandent, parce que par exemple, je reviens au plumitif, la banque de données là, des antécédents. Oui. Il n'y a pas juste les condamnations là-dedans. Il y a aussi les accusations qui ont été retirées. Présentement, vous pouvez y aller là sur Viking, 1971, au palais, puis vous allez avoir accès à tout ça. Là. Mais quand vous allez l'avoir de chez vous, dans le confort de votre foyer, avec du popcorn puis une bière.
J'ai plein de monde à vérifier, moi. J'ai assez hâte que ce soit.
C'est ça, mais est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce qu'on laisse ça
que tout le monde
at large, à tout? Ou est-ce qu'on laisse juste les condamnations, par exemple? Est-ce qu'on laisse les jugements? Là, on est vraiment en train de prévoir la justice du futur, l'accessibilité. Ben. Est-ce qu'on laisse ça aussi at large que ça l'est présentement? Parce que présentement, on ne se fait pas de cachette. Les gens, ils vont pas au palais là, consulter ou fouiller dans des papiers que ça prend des heures à trouver. Là-bas? J'ai même pas fait ça. Je suis pas curieuse. Hein?
Tu vas le trouver.
Non,
Est-ce que c'est le plumitif dont tu parles? Est-ce que c'est pan-canadien? Est-ce que ça s'arrête au Québec?
Ça marche par province.
Par province.
Oui, exactement. Okay. Mais il y en a un pour chaque. Puis, évidemment, les procureurs de la Couronne ont accès aux informations autres informations. Fait que, bref, j'avais le goût de vous en parler pour vous dire il y a de l'espoir. Il y a une équipe au ministère de la Justice qui s'occupe de ça. Puis, sérieusement, ils sont vraiment. Il y a déjà plein de choses en marche que ça paraît pas encore pour moi, mais je constate. Puis ce que j'ai trouvé comique aussi, c'est qu'ils se sont organisés une espèce de salle de pilotage pour vraiment suivre le projet. Tous les murs sont couverts de papier et de carton. Fait que là, moi, je riais là, dans ma tête. Là, j'étais comme, OK, là, on gère la transformation numérique à coup de petits papiers puis de petits cartons. Mais c'était visuel, là. On voyait. Juste, ça exprimait un peu d'où on part.
Tu sais, juste ce qui s'est passé avec la Cour municipale à Montréal, là, ils vont perdre 4 millions de dollars là, avec des milliers. C'est ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, tout ça va peut-être pousser dans la machine, dire là, OK, on va avancer.
C'est ça l'impulsion, là, parce que ça a des grosses conséquences, puis ça décourage les gens de demander justice, en mettons par exemple en matière civile et tout ça, parce que c'est tellement compliqué, je sais pas comment faire, j'ai pas de fax, tu sais, juste ça là, ça peut décourager quelqu'un de, même s'il est dans son droit, de demander justice. Donc là, on est vraiment rendu là à faire ce virage là et on a encore quelques années pour s'en reparler.
Qu'est-ce que ça prend pour vérifier quelqu'un au primitif, pour savoir s'il y a un dossier criminel, s'il a déjà été condamné ou même s'il a déjà été juste accusé? Mettons, là, j'ai besoin de Rénal Cloutier.
Ouais.
Avec quoi? Là, avec
date de naissance, en premier.
La date de naissance?
Mais t'es même pas encore sûr que t'as le bon, là, parce que Rénal n'a pas un nom si rare que ça.
Non.
Donc, il faut la date de naissance, idéalement des adresses.
OK.
Et là, tu chemines là, vers... Et faut que tu te débrouilles tout seul. Là. Les employés...
ils t'aideront
bref,
pas, là.
Ben, ils ont tellement
d'autres choses.
Oui, c'est ça. Tu t'arranges avec
non, mais tu sais, je voulais dire ça, puis je t'utilisais comme exemple, mais tu sais, moi, je sais qu'il y a des gens qui... Il y a une rumeur, à un moment donné, dans un petit village qui court que lui qui vient d'arriver a déjà été condamné pour pédophilie.
Ouais.
Fait que là, ils veulent le vérifier... Ils vont-tu demander sa date de naissance?
Ouais.
Ils vont fouiller son Facebook, trouvent pas la date de naissance, ils s'en doutent un peu, fouillent sur Internet. Ils ont plus de chances de trouver une nouvelle qui a été écrite, mais si c'était pas grave
ça
dans une région,
Ouais, c'est ça. Puis c'est un peu de ça qu'on a peur. Est-ce qu'on veut des procès sur les réseaux sociaux par des gens qui vont avoir accès à toutes ces informations-là? Parce que présentement, tu y as accès aussi sur Internet, j'ai oublié de le dire, avec Sokige, là, mais il y a un coût à ça et c'est très cher.
C'est
à chaque page que tu cliques, là, je t'avoue que je sais pas parce que ça marche sur abonnement, mais nous, au soleil, là, présentement, moi, j'y vais sur Viking, là, parce que c'est gratuit.
Okay.
Donc, fait que présentement, c'est un frein à l'utilisateur. Mais là, si on met ça gratuitement, c'est une autre ballgame, là.
OK. Hey, Isabelle, je veux que tu me parles de Nicolas Lamarche-Vassil. Lui, il prenait l'autobus avec un 9 mm chargé.
Ben oui, c'est ça. Mais c'est pas tant lui qui est intéressant, je trouve, que le petit gars qui l'a vu faire.
OK.
Parce que.
12 ans.
Oui. Exactement. Puis ça, c'est le genre d'histoire que j'adore quand je suis assis au 2-15 à attendre d'autres choses. Et que là, finalement, ça arrive un petit peu gratuitement, comme ça, sans l'avoir demandé. Bref, c'était l'été passé. Dans le
lui, l'accusé, il y a quel âge?
Il y a...
Début vingtaine?
Mi-vingtaine, je dirais. Okay. Déjà un bon petit parcours judiciaire. Et il prenait l'autobus, le 801.
C'est un criminel à pied, lui?
Ou en tout cas, je pense qu'il avait fait le party ce soir-là. C'est peut-être un criminel responsable là, qui prenait l'autobus quand il avait bu. Et il y a un petit jeune de 12 ans qui attendait lui aussi l'autobus à Charlebourg, le 801, et qui voit Lamarche Vassil avec un autre gars qui ont l'air bizarre. Fait que là, lui, il se met à les observer. Puis là, finalement, il voit dépasser à la ceinture du pantalon de Nicolas Lamarche Vassil ce que le petit gars analyse à être comme une crosse d'un pistolet. Et il est un petit peu intrigué. Il continue à le regarder et il est sûr de son coup. C'est ça, c'est un gun. Alors, il avertit la chauffeuse de l'autobus articulé là, du 801 dans lequel il rentre pour lui dire « Ce gars-là, avec la calotte, il a une arme. » Bon, puis là, finalement, il continue de regarder Nicolas Lamarche-Vassil pendant tout le trajet. Avant de sortir, il retourne voir la chauffeuse pour dire « Là, je suis convaincue, je l'ai regardé, c'est vraiment ça. » Et là, lui, le jeune sort. La chauffeuse, je pense qu'elle avait déjà appelé, mais en tout cas, elle rappelle les services. Et là, on lui dit « Bon, vous immobilisez. »
Elle rappelle la police.
Exactement, elle appelle le 911. Mmh. Et là, on lui dit...
Le petit gars, il est débarqué, lui?
Oui, lui est débarqué, il vient de débarquer. Et elle va immobiliser son autobus presque immédiatement. Les policiers arrivent. On encercle l'autobus, on fait sortir les passagers et on fait sortir Nicolas Lamarche-Vassil qui avait effectivement un 9 mm chargé et qui est classé comme prohibé à cause de la longueur du canon. Et là, je m'excuse encore une fois aux amateurs d'armes à feu qui sont toujours très précis. Là, je ne sais pas le nombre de courriels, vous autres, que vous recevez.
Un zéro,
si vous faites une erreur dans le calibrage et tout ça. Mais moi, j'ai
cité... On ne fait pas d'erreur ici, jamais.
Ah, ben, parfait.
Dans du pôle matin,
c'est merveilleux. Donc, cette arme-là, ce qui était dit à la cour, c'est ça, c'était vraiment une arme classée, chargée, parce qu'il y en a qui sont pas prohibées. Mais celle-là, elle l'était. Donc, il a été arrêté. Et là, il a plaidé coupable à s'être promené dans un autobus.
À 24 ans.
Ouais.
Je pense qu'il y avait 24 ans.
Est-ce qu'il y avait au moins un permis de port d'armes?
Pas tout. Non, c'est vraiment pas...
Cette arme-là, était-elle enregistrée?
C'est l'histoire ne le dit pas. J'irais pour un nom. Là, mais
Puis c'était quoi la raison pourquoi il portait ça?
On l'a pas su. Le juge Mario Tremblay a essayé un petit peu de savoir. Il a demandé à l'accusé. Il a dit, ouais, promener dans un transport public un beau soir d'été, métrobus avec une arme chargée, ça aurait pu semer tout un émoi. La réponse de l'accusé, ça a été... ou tu sais genre ouais.
Il y a pas des gens qui disaient que tu sais il vivait une mauvaise passe dans sa vie, c'est sûr qu'il est comme sorti.
Ben ça c'est son avocate là qui a dit que c'est ça.
C'est pour ça qu'il aurait eu une arme.
Mais le petit gars de 12 ans, est-ce que tu l'as vu à la barre, est-ce qu'il était
témoigné? Non, lui il est pas venu puis il a été
juste initié l'appel.
Exactement, puis et le procureur et le juge ont dit ouais, quand même petit gars assez allumé. Moi je me suis posé la question ouais, vraiment là, y a-tu écouté beaucoup de séries policières ou est-ce qu'il joue beaucoup aux jeux vidéo?
C'est pas mon fils.
Parce que je suis pas certaine là, que tout le monde aurait été capable de reconnaître, mais lui, ça, c'est ça. Et ça a mené une arrestation.
OK. Tu me viens de me donner un flash, puis je vais partager. On va être millionnaires. Hein. C'est sûr, sûr, sûr.
Sérieux? Tu m'as-tu trouvé un lien avec Grégory?
Non, pas avec Grégory, avec justement la dernière histoire. Puis ça m'a fait. Là, ça va vite des fois dans ma tête. Est-ce qu'on peut texter au 911? C'est niaiseux, là, mon affaire. Pensez. Moi, là.
Ça s'en vient.
Ça serait une question pour Yannick Bergeron, mon collègue de Radio-Canada.
Il n'y avait pas de nouvelles.
Il connaît bien les répartiteurs de 911 maintenant.
Il me texte. Il m'a texté, Yannick Bergeron. Il s'est acheté de la bière. C'était de la Dupont.
Oui, et... il m'a montré ça, mais ah, il l'a bu.
Il l'a bu, c'est ça. OK. Parce que toi, tu dis que ça s'en vient.
Attends un peu, là. Je me rappelle d'abord.
Parce que je vais vous donner l'exemple.
C'est possible de le faire. Les gens qui sont sourds, malentendants, etc.
Non, mais il faut que ce soit ouvert à la population. Et voici pourquoi. Quand tu vas dans un stade de sport, maintenant tu vas voir une game des Yankees,
oui.
Puis il y a quelqu'un en état d'ébriété, des gens dérangeants, mais il y a tellement peu d'intimité dans un stade de sport, tu peux pas prendre ton téléphone puis manquer aussi mettons une période de la game de hockey, à appeler la sécurité du stade,
oui.
Puis dire hey, pouvez-vous venir tasser les fatigants à côté de moi. Il y a toujours un numéro, Rick, okay. Tu as déjà vu, il y a toujours un numéro pour texter.
Ouais.
Si quelqu'un est désagréable dans le stade, textez votre siège à ce numéro-là et on va aller juste vérifier. Donc, on ne dit pas qui est celui qui déclare la plainte, mettons, ou qui est le plaignard, mais on va vérifier, voir si vraiment il y a des gens de dérangeants.
Le plaignard, j'adore ça. Ouais. Le plaignant.
Hey, je me suis fait aller clavier.
Le plaignard, il fait chiant pour rien.
Je me suis fait aller clavier, Steph, puis ça me disait vraiment quelque chose. Le 21 décembre 2019, ça sortait cette nouvelle-là. Tous les services d'urgence vont bientôt s'assurer de pouvoir localiser les personnes qui appellent au 911 à l'heure de
la
téléphone cellulaire. Mais en plus de ça, on va permettre les photos, envoyer des photos par texto, puis texter justement ça.
Ton viking est efficace, toi.
Puis parce que Étoile 4141 de la Sûreté du Québec, oui, est un service extraordinaire que j'ai failli utiliser dimanche soir parce qu'il te localise immédiatement. Moi, je suis sûr, dimanche soir, j'ai suivi un bonhomme sourd.
Okay.
D'une zone de 90, il roulait 45, 50. Il allait tout croche. Mais tu sais, je voulais pas déranger la police pour rien. Puis aussitôt que j'ai vu qu'elle allait se tasser, je me voulais m'avancer à côté pour voir qu'est-ce qu'il y avait de l'air puis pour confirmer mon impression. Finalement, je l'ai pas fait. Puis il a pris un embranchement. Puis moi, j'allais complètement ailleurs. Mais donc, ce genre de service-là, un peu plus discret... ou que tu sais comme le petit gars dans l'autobus là,
oui,
il aurait pu texter le 911 dire je suis dans 801
bon
à telle place puis ça presse.
C'est vrai, il fallait qu'il soit discret. Non, exact. Très bon cas.
Bon ben on va être millionnaires. Hey, bonne journée.
Ça me fait plaisir vous autres aussi.
Isabelle Mathieu, chroniqueur judiciaire au soleil, vous êtes dans Dupont le matin. Pierre, c'est la pause de 7 heures. On vient.
D'autres segments scientifiques et intelligents s'en viennent. Faut juste les trouver. FM 93. Pour communiquer avec notre studio, texto 25226.
Hey, le déjeuner au London Jack, ça commence ce week-end. Le déjeuner d'ouverture officielle, c'est la semaine prochaine. C'est le 7 mars, où vous êtes invité à venir déjeuner sur le bras si vous textez le mot du jour. Aujourd'hui, c'est « tas ». T-A-S, parce qu'il y a un tas de crêpes, puis on attend un tas de neige. Fait que, tas pour aujourd'hui, le mot du jour, textez au 25226. Sinon, réservez votre table pour déjeuner soit ce week-end ou en fin de semaine prochaine, ou n'importe quand. C'est des déjeuners festifs. C'est pas ordinaire, c'est un menu anglais, c'est un menu extrêmement éclaté, et surtout festif. Mimosa, 15$, all you can drink. Même chose, Bloody Caesar, all you can drink, 15$. Musicien, 9h30, 13h30. Le party, mais c'est déjeuner au London Jack. Alors, sur Facebook, réservez votre place. Vous pouvez appeler directement aussi. London Jack est situé sur Saint-Joseph, voisin du pub du Parvis, en face du Parvis de l'Église. C'est un endroit à découvrir. Premièrement, c'est 16 jours. Puis là, on lance les déjeuners, mais c'est ouvert le soir. Là. Puis il y a le musicien Stéphane Langelier qui est là également en soirée, qui est très hot.
La fait reine que... est tout le temps là.
La reine est là. C'est beau, une photo de la reine, je trouve. Fait que c'est beau, un décor anglais tout court. Alors voilà, le London Jack.